Les enfants de Chronos.
Bonjour, Vincent Bartier de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin. Précédemment, nous avons évoqué que les sapeurs du 8e régiment du génie ont utilisé la TSF dans les chars d'assaut. Et bien maintenant, nous allons parler de cette arme nouvelle qui est créée pendant la Première Guerre mondiale et qui voit l'installation au sein du Valois d'un centre de formation. En effet, le 30 septembre 1916, le général en chef du Grand Quartier Général de l'Armée de l'Est décide de créer à Chanlieu. Pour ceux qui ne connaissent pas Chanlieu, c'est un hameau situé sur la commune d'Orouy, en lisière sud de la forêt de Compiègne. Donc, ce militaire décide de créer à Chanlieu un camp spécialement aménagé pour le séjour et l'instruction des unités de l'artillerie d'assaut, l'AS, qui est à cette époque en voie de formation. Le général Estienne est désigné comme le commandant de l'artillerie d'assaut. Il installe son quartier général dans le château de la commune d'Orouy. D'ailleurs, vous pouvez, toujours, voir sur le mur d'enceinte du château d'Orouy une plaque commémorative qui relate cela. Pourquoi venir s'installer dans cette commune? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous ne sommes pas loin du grand quartier général de Chantilly. Ensuite, nous sommes à proximité du front et cela permet de déployer des unités de chars assez rapidement. Un gros avantage est que ce camp est implanté à la lisière de la forêt de Compiègne, ce qui permet de manœuvrer à couvert et utiliser le camouflage naturel de la forêt pour être à l'abri des reconnaissances aériennes. Pour finir, nous sommes assez éloignés des grands axes de communication, ce qui facilite la discrétion de cette infrastructure qui doit rester le plus secret possible aux yeux de l'ennemi. Rapidement, début novembre 1916, le camp va être opérationnel et bien équipé. De multiples groupes électrogènes vont permettre l'éclairage du camp. Une route circulaire, éclairée, va entourer l'ensemble du camp et permettre la desserte de toutes les baraques Adrian. Les baraques Adrian, ce sont des baraques en bois, facilement montables et démontables, inventées par l'ingénieur Louis Adrian, qui est aussi à l'origine des casques utilisés par l'armée à partir de septembre 1915. Le camp est donc constitué de plusieurs groupes, ayant chacun 12 baraques. Chaque groupe est autonome et possède son atelier, sa cuisine, sa remise, ses douches, ses couchages. Les chars de chaque groupe sont stationnés devant les baraques et chaque groupe possède 12 chars. Le camp est relié à l'extérieur par une voie de chemin de fer de type Decauville. C'est une petite voie ferrée d'une largeur de 60 cm. Elle est installée le long de la route circulaire et sert à approvisionner le camp, mais aussi à permettre de déplacer du matériel à l'intérieur de celui-ci. La voie de chemin de fer rejoint la gare de Morienval. Au même titre, le camp est alimenté en eau par une station de pompage, dont les citernes sont encore visibles aujourd'hui. Le camp est mis sur pied, entre autres, avec l'aide de travailleurs chinois ou indochinois. Ils sont jusqu'à 200 à Chanlieu et possèdent leur propre camp. Chanlieu possède son propre champ de tir camouflé au sein de la forêt. Le camp de manœuvre est établi entre le site gallo-romain et la forêt. Dans ce terrain de manœuvre, il y est creusé des tranchées, protégées par des réseaux de barbelés. La zone est arrosée par des tirs de crapouillots qui donnent un aspect plus réel et la zone que doivent franchir les chars abritant les fantassins à l'assaut. Malheureusement, la création et l'installation de ce terrain de manœuvre près des vestiges gallo-romains de Chanlieu est à l'origine de la disparition et de la dégradation de certains d'entre eux. En décembre 1916, le camp de Chanlieu est opérationnel et les chars Schneider et Saint-Chamond sont à l'exercice. Cependant, ces engins sont des innovations et leurs imperfections sont donc nombreuses. Ils sont sous-motorisés, ont une faible autonomie logistique et connaissent des cruels défauts de pièces de rechange. De plus, ils sont difficiles à conduire. En plus, les Allemands s'adaptent à cette nouvelle arme et élargissent les tranchées et développent une nouvelle balle perforante. Les chars français doivent alors procéder à un surblindage. Quelque temps auparavant, durant l'année 1916, Estienne a pris contact avec Louis Renault pour le développement d'un modèle plus adapté à l'évolution. Renault décline dans un premier temps le projet pour se consacrer à la fourniture de munitions pour la conduite de la guerre, mais accepte finalement l'idée pour aboutir à la réalisation d'un troisième modèle de char, le Renault FT-17. Ce nouveau char est expérimenté dans le plus grand secret à Chanlieu le 9 avril 1917. Le 12 mai suivant, 1150 exemplaires sont commandés à Renault, qui doit faire appel à ses concurrents pour répondre à la demande. La livraison des chars et des équipements prend du retard. L'année 1918 est marquée par des offensives allemandes au printemps. À Chanlieu, les chars Renault sont stationnés, mais seule une partie d'entre eux est opérationnelle. Les autres n'ont ni armes ni blindage en acier traité. Les opérations doivent être réalisées sur place. Avec l'arrivée des chars légers Renault au début de l'année 1918, il faut modifier l'organisation du camp. Il convient d'aménager de nombreuses installations pour la mise au point de ces engins qui arrivent à Chanlieu sans armes ni blindage. Ce parc Renault est installé entre le carrefour de la Reine et celui de Vaudrampon. Il est séparé du reste du camp de l'artillerie spéciale et représente un monde à part, nimbé dans le secret des défenses. Les hommes sont soumis à un entraînement peu intensif et s'ennuient dans ce camp situé à l'écart des villes, offrant des activités culturelles et quelques loisirs. Les sorties du camp sont restreintes et il est proscrit aux soldats de se rendre dans les villages voisins de Béthisy, Orouy et Gillaucourt, en dehors de certaines périodes. Les permissions à Crépy sont peu divertissantes et les escapades à Paris, en toute illégalité, se multiplient. Cependant, les débits de boissons locaux sont pris d'assaut et la prostitution se révèle être un fait majeur. Les maladies vénériennes inquiètent au plus haut point les autorités du camp qui signalent leur inquiétude auprès de leur hiérarchie. Des enquêtes sont menées dans les villages alentours pour cibler les femmes se livrant à cette activité et les foyers de contamination sont signalés. Les spahis de Senlis qui ont la garde du camp dans les premiers temps ne parviennent pas à empêcher les sorties de ce vaste camp forestier entouré par des fossés et des barbelés franchissables par tout militaire épris de liberté. Outre les maladies vénériennes, l'infirmerie du camp, située à Vaudrampon, derrière l'auberge au bon accueil, fait face au manque d'hygiène dans le camp. On y retrouve la gale, la pneumonie. Une baraque de douche en bois est installée et le réseau s'améliore au fil des mois, mais les conditions de vie restent assez spartiates. Des petits chauffages sont installés dans les baraques en bois, mais l'humidité de la forêt fait des ravages en hiver. Un seul bâtiment est construit en dur. Lequel ? Eh bien, la prison. Il en reste encore aujourd'hui les fondations. Comme pour le GDE, le groupe des divisions d'entraînement, les offensives allemandes du printemps 1918 sont un réel problème pour le camp de Chanlieu. Le général Estienne est confronté à un dilemme. Faut-il quitter Chanlieu et ainsi interrompre la formation à un moment crucial du conflit ou rester et risquer, en cas de percée allemande, de voir le matériel pris par l'ennemi, notamment le nouveau char. Dans un premier temps, les chars Saint-Chamond sont transférés aux alentours des villages de Raré, Rully et Fresnoy-la-Rivière. Les chars Renault sont envoyés à la Chapelle-aux-Pots, près de Beauvais. La première alerte passée, le camp est partiellement réoccupé par les unités de chars équipées et formées tactiquement, aptes à partir rapidement en combat. L'instruction, quant à elle, est déplacée à Sercotte, au nord d'Orléans. Lors des 15 premiers mois de son existence, le camp voit passer environ 4000 hommes. Et en août 1918, ils sont près de 20 000. En avril 1918, il y a plus de 1100 chars opérationnels en France.